Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 octobre. Ce sont les paractualités qui commencent. Et aujourd'hui, dans cette émission, que pourra-t-on y trouver? Bien, d'abord, la musicothérapie, est-ce que c'est vraiment si efficace que cela? Il y aura une entrevue avec Catherine Bourgeois, metteur en scène et scénographe de la pièce « Abîmée ». Quatre courtes pièces de Samuel Beckett du 4 au 22 octobre. C'est présenté à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Comprendre l'autisme quand on est une jeune chercheuse à 25 ans. L'organisme du jour, Marc Saint-Onge, directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, au sujet d'une conférence annuelle qui aura lieu à Trois-Rivières. Et puis, manque d'accessibilité à l'Assemblée manitobaine. La demande du ministre Fletcher a été rejetée. Alors, au sujet du rapport du protecteur du citoyen dont il a été question à cette émission et d'ailleurs également à l'émission Accès libre avec Benoît Hassett, eh bien, Philippe Couillard refuse de s'excuser auprès des plus vulnérables malgré les conclusions accablantes. Et sans appel du protecteur du citoyen, Philippe Couillard persiste à refuser de reconnaître que les choix de son gouvernement ont affecté les services directs aux citoyens, notamment les plus vulnérables. Et c'est ce que déplore François Legault, chef de la coalition Avenir Québec. Pire, il refuse de retirer ses propos maladroits tenus la semaine dernière, alors qu'il affirmait que les discours sur les personnes vulnérables et des finances publiques déséquilibrées, ce n'est que du vent, ça ne veut rien dire pour la population. Jamais Robert Bourassa n'aurait prononcé de telles paroles. Les aînés, les patients et les personnes handicapées savent que les coupures dans certains services, ce n'est pas du vent, a réaffirmé François Legault. Un dossier sur la musicothérapie. Est-ce que la musicothérapie, c'est réellement efficace? La musicothérapie, c'est l'une des composantes de l'art-thérapie, reste encore boudée par les médecins et autres professionnels de la santé. Et pourtant, en suscitant de plus en plus l'intérêt des patients, cette pratique commence peu à peu à faire ses preuves, et cela dans de nombreuses indications distinctes. La musicothérapie se définit simplement par une utilisation judicieuse de la musique dans un but de thérapie psychique. Se pratiquant individuellement aussi bien qu'en groupe, cet outil thérapeutique permettrait de rétablir, maintenir ou encore améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle d'une personne. Ainsi, il s'agit à part entière d'une pratique de soins, d'aide, de soutien ou de rééducation consistant en une réelle prise en charge des patients. En utilisant la médiation sonore et musicale, cette technique s'appuie sur des liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique et, bien sûr, l'histoire du patient. Alors, à qui s'adresse la musicothérapie? Aux personnes souffrant d'anxiété, de troubles du sommeil, aux personnes présentant des difficultés psychosociales, souffrant d'isolement, de troubles de la communication, aux personnes atteintes de pathologies chroniques ou encore de maladies dégénératives. Ça s'adresse aussi aux personnes qui sont sujettes à la douleur physique, ainsi qu'aux enfants, aux adolescents et aux adultes souffrant de troubles affectifs, du développement du comportement ou de la personnalité, ou encore des personnes âgées, dépendantes ou non, ou encore en fin de vie, ou des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Également, on dit que la musicothérapie peut s'avérer très efficace pour les personnes souffrant de déficiences mentales, motrices ou sensorielles. Alors, pas toujours facile d'avoir un musicothérapeute à la maison, mais sachez qu'il existe une application qui s'appelle MusicCare, donc MusicCare, MusicCare. Et on vous propose toutes sortes de plages musicales accompagnées de moments un peu plus zen pour vous aider peut-être à traverser des périodes un peu plus difficiles. « Ce sera présenté, c'est déjà présenté à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier, abîmé, quatre courtes pièces de Samuel Beckett, mise en scène par la metteur en scène et scénographe Catherine Bourgeois, que j'ai au bout du fil.
Bonjour.
Bonjour Madame Bourgeois. Ce n'est pas la première fois, parce que je voudrais préciser que dans cette pièce, entre autres, vous faites travailler l'ami Gabriel Marion Rivard.
Voilà, oui, il y a Gabriel Marion Rivard, et il y a aussi Michael Nimbley, qui est
oui.
un acteur avec lequel je travaille souvent, puis Guermina Kerwin et Marc Bélan qui complètent la distribution.
Et comme on le disait d'ailleurs très justement dans un article paru dans la presse aujourd'hui ou hier, si je ne m'abuse, c'est vraiment pas la première fois. D'ailleurs, je vais citer M. Boulanger, si vous me le permettez.
Allez-y, oui.
Hein, lorsqu'on demande à la cofondatrice de Joe, Jack and John, ça c'était en 2003, si elle était en avance sur son époque en donnant à la compagnie le mandat d'un théâtre inclusif et pro-diversité, elle répond non, c'est plutôt le milieu qui était en retard. Vous disiez ça en 2003.
Oui, peut-être que c'est vrai que ça sonne un petit peu dur à mes oreilles ce matin, là,
oh.
ce que j'ai dit comme jugement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, le Québec, puis on est un petit peu en retard sur des questions de diversité, diversité culturelle, mm-hmm. diversité sociale, diversité neurologique,
oui.
Diversité humaine, etc. Donc,
Mais j'aurais peut-être dû aussi ajouter la suite, hein,
allez-y.
Parce que ensuite il y a une citation, donc on vous cite là, et vous dites « Pour moi, ça n'a jamais été un défi, l'inclusion. »
Non, pour moi, c'est vraiment comme quelque chose qui m'excite, qui me stimule. En fait, puis c'est pour ça que je me suis donné ce mandat-là au départ comme artiste. C'était mm-hmm. j'avais le goût de réunir autour de la table vraiment des artistes de différents horizons, des artistes professionnels. Tout le monde est professionnel, mais qui viennent de différents horizons, différentes générations,
ouais.
Backgrounds, etc. Donc, moi, c'est vraiment un intérêt que j'ai pour l'autre, parce que même si la nature de mon travail est profondément artistique, je fais pas justement de l'art visuel dans un studio, je fais du théâtre, donc la nature de mon travail est également très, très axée sur la rencontre humaine, sur c'est ça, l'humanité des artistes avec lesquels on travaille à chaque jour. Donc, pour moi, j'ai vraiment un intérêt pour une diversité autour de la table. Je trouve que ça nourrit le processus. Je trouve que ça diversifie justement les points de vue, les angles, les regards sur un sujet donné. Donc, je trouve ça juste nourrissant au point de vue humain.
Alors, de quoi parle cette pièce? Qui sont ces abîmés?
En fait, c'est quatre courtes pièces de Samuel Beckett, qui mm-hmm. est comme un prix Nobel de littérature, puis qui est mieux connu pour sa pièce En attendant Godot.
Oui.
Puis donc là, on est allé chercher quatre dramaticules, comme il les nommait, donc des courtes pièces. Puis on les a rassemblées sous le mot abîmé, parce que c'est un mot qui revenait souvent dans une des quatre pièces. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un parallèle entre Samuel Beckett, son écriture, les personnages qu'il a créés tout au long de sa vie, des marginaux un peu décalés,
ouais.
un peu des fois démunis.
Mm-hmm.
Puis donc, mon intérêt pour des castings anti-héros, puis pas anti-héros
oui.
parce que fondamentalement, ils sont anti-héros, mais plus parce qu'ils sont perçus des fois comme tels par la société, parce que l'handicap comme tel, l'handicap d'un acteur ou d'une personne, c'est pas tant... En fait, l'handicap est dicté par l'extérieur plus que... Ce qui est plus handicapant, c'est les préjugés et la discrimination
oui.
auxquelles on fait face dans la vie
oui.
que la nature de notre... De qui on est.
Ben c'est d'ailleurs ce qu'on entend, nous, beaucoup, hein, parce qu'évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans une radio comme la nôtre,
oui.
nous côtoyons
oui.
beaucoup de oui. personnes handicapées, et c'est toujours ce qui revient, quoi. Hein,
oui.
C'est...
Donc, pour moi... Fait, quand je travaille avec ces acteurs-là de différents horizons, puis que mm-hmm. je rassemble des gens vraiment de la diversité autour de la table, c'est pas tant... en fait, c'est plus comme chacun a ses limites, chacun a
oui.
ses capacités, chacun a ses forces, puis c'est avec ça que je travaille.
Mm-hmm.
Que,
autrement dit, le travail n'est pas différent.
Pardon?
Je dis, autrement dit, le travail n'est pas différent.
Non, c'est pas différent. Puis on prend un acteur d'expérience et de renom comme Marc Bélan,
mm-hmm.
Puis à côté de Gabriel, disons, par exemple.
Oui.
Mais chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, chacun a ses défis. Puis c'est avec ça qu'on travaille, puis c'est tout. Donc, il n'y a pas, c'est pas nécessairement. Voilà, c'est avec des humains.
Oui, c'est
puis,
ça, exactement.
Ça fait des belles chimies d'équipe. En tout cas, en ce moment, c'est une belle chimie, les quatre acteurs.
Oui, je vous avouerai que non seulement j'ai envie de voir ces quatre courtes pièces-là, mais en plus, j'aurais voulu être peut-être une petite souris de théâtre pour voir toute cette rencontre-là, justement, entre un type comme Bélan et puis Gabriel. C'est, à mon avis, il doit y avoir des beaux, beaux grands moments de théâtre. Hein?
Oui, puis on a beaucoup de plaisir, puis de rire, puis il n'y a pas de... je pense que, tu sais, on est tous là, comme avec amour pour le théâtre, donc tu sais, on partage cette passion-là, puis c'est ça l'important, il n'y a pas d'autre... donc voilà, ça se fait de façon très naturelle, cette inclusion-là, pour en revenir à la citation, donc que ce n'est pas nécessairement un défi d'inclure, puis de diversifier une équipe. Quand vraiment l'intérêt est là à la base.
Catherine Bourgeois, vous êtes donc, je le rappelle, metteur en scène et scénographe de cette pièce Abîmée. En fait, ça, c'est un titre pour réunir ces quatre courtes pièces-là de Samuel Beckett.
Voilà.
Hein, et c'est présenté jusqu'au 22 octobre à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier. On va vous souhaiter bonne chance.
Oui, c'est parti depuis hier soir. Donc, on a cassé la glace, puis les échos sont bons. Donc, on devrait avoir une belle run jusqu'au 22 octobre. Voilà.
Bravo, bravo.
Merci
au revoir, Catherine Bourgeois.
Merci, au revoir.
Actualité régionale maintenant, 30 en bas de 30. Marie-Julie Allard et la recherche sur l'autisme. On parle là d'une émission de radio qui est diffusée en région. Vous allez comprendre un petit peu plus. Cette étudiante au doctorat en neurosciences de l'Université McGill, qui, je vous le rappelle, s'appelle Marie-Julie Allard, a déjà publié le fruit de ses recherches dans la revue scientifique Autism Research Journal. Elle s'intéresse aux facteurs de risque de l'autisme pendant la grossesse. L'inspiration de la jeune femme, originaire de Sainte-Thècle, lui vient de son milieu familial parce que la sœur de Marie-Julie Allard est atteinte d'une maladie rare qu'on appelle le syndrome du cri du chat. Et c'est pour mieux tenter de comprendre la science et de contribuer à faire évoluer la recherche que cette jeune femme, Marie-Julie Allard, a quitté sa région natale pour la métropole, région natale, donc elle est de Sainte-Thècle, je vous le disais, et c'est un article que nous avons trouvé alors qu'elle sera invitée à faire une émission de radio là-bas, juste avant certainement que nous-mêmes un jour nous l'invitions à notre propre émission. Également, l'école pour tous, vous savez, on parle beaucoup en ce moment, c'est la semaine de l'école publique. Il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres. On nous dit par exemple que dans les écoles de l'Outaouais, différents services sont offerts pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, le fameux EHDAA. Une variété de services aussi grande qu'il y a de besoins différents. Seulement sur le territoire de la commission scolaire des portages de l'Outaouais, la CSPO, on compte un peu moins d'une trentaine de classes offrant des services spécialisés tant pour les enfants présentant un handicap physique qu'un trouble du langage ou encore du comportement. Du moment qu'un enfant a un diagnostic, il y a un plan d'intervention qui va être mis en place. Et d'ailleurs, il y a un autre papier qui est sorti hier et toujours sous la plume d'Émilie Pelletier-Grenier, qui s'intitule « Pas de diagnostic, pas de service ». Pour avoir accès à des services, il faut qu'il y ait un diagnostic, prévient Jocelyne Sylvestre, directrice générale du Trait d'Union d'Outaouais, un organisme qui travaille auprès des personnes autistes et de leurs familles. Là où le bât blesse, c'est au niveau du diagnostic qui souvent n'est pas posé avant un certain temps. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire engranger la roue. Et c'est parfois très, très long avant que ça arrive, dit la directrice de l'organisme. Elle dit que c'est d'autant plus vrai que le système de santé québécois a connu des transformations qui ont mené à la création du Centre intégré de santé des services sociaux de l'Outaouais, autrement dit le CISSO. Et qu'à ce moment-là, eh bien, peut-être que ça prolonge encore le temps d'attente avant d'avoir ce diagnostic-là qui fera que dès qu'on l'aura, on pourra agir en Outaouais, comme d'ailleurs partout au Québec. « L'organisme du jour, je me déplace en région. Je vais m'adresser au directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, autrement dit l'AQLPH, et c'est Marc Saint-Onge qui devrait être au bout du fil.
Oui, bonjour, Madame Sey.
Bonjour, Monsieur Saint-Onge. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons contacté notamment parce qu'il y a une conférence annuelle du loisir qui va avoir lieu à Rivière-du-Loup. C'est bien ça?
Nous sommes présentement...
On est dedans, hein?
Oui, dedans jusqu'à vendredi.
Jusqu'à vendredi, donc c'est ça, jusqu'au 7 octobre. Et je voudrais que vous nous parliez du but de cette conférence annuelle du loisir à Rivière-du-Loup.
En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont l'ensemble des municipalités qui sont organisées par l'Association québécoise du loisir municipal. Mm-hmm. Et c'est l'ensemble des municipalités. Il y a plus de 500 congressistes qui sont ici, et à peu près tous issus du monde municipal, bien sûr, donc des loisirs.
D'accord.
Et pour nous, c'est une occasion bien particulière d'être ici pour toujours faire la promotion et le développement de l'accessibilité aux loisirs des personnes handicapées.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par loisir, c'est ça? Est-ce qu'on parle, je sais pas, des camps de jour? Est-ce qu'on parle de tout ce qui est créatif, création?
En fait, le service de loisir d'une municipalité offre dans tous les créneaux du monde du loisir. Pouvant inclure jusqu'au le domaine culturel, mm-hmm. et le domaine du plein air aussi, mm-hmm. et le domaine sportif, le domaine le plus ludique. En fait, c'est vraiment tous les domaines. Nous, on est ici pour toujours soutenir cette promotion, ce développement. Il faut en parler. Il faut se donner des moyens ensemble. Il faut aller chercher des occasions de soutenir le partenariat entre tout le monde et surtout de dire, si vous rencontrez une certaine problématique parce que vos employés ne connaissent pas nécessairement bien les réalités des personnes handicapées, mais c'est à nous, lors de présentations, notamment, on fait deux présentations cet après-midi, et donc c'est à nous de donner cette information-là à des gens qui participent à nos ateliers.
Oui.
Et c'est fantastique parce que l'ouverture, elle est très grande. Ce sont des façons de faire qui, parfois, ne sont pas toujours connues.
Oui.
Et le fait qu'on puisse faire du maillage, hein, du partenariat, ça fait en sorte qu'on crée des occasions multiples pour les personnes handicapées d'avoir accès à du loisir.
Oui, parce que je suis contente que vous ayez abordé cette problématique-là des encadrants, hein, des personnes handicapées, notamment, par exemple, dans des camps de jour. C'est sûr qu'il y a une réalité qu'ils ne sont peut-être pas obligés de connaître, et ça peut faire peur, d'ailleurs, à certains parents handicapés, tout ça. Alors, c'est important, je pense, qu'il y ait tous ces ateliers-là.
Vous avez
pour rassurer.
Les craintes sont de toutes parts. Hein.
Mm-hmm.
Une municipalité qui n'a pas habituellement dans sa gestion, dans son personnel, des gens qui ont une compétence très fine, mm-hmm. D'une personne qui est autiste, qui s'en irait en camp de jour, par exemple.
C'est ça, exactement.
Alors, il faut démystifier la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'intégrer une personne handicapée dans un camp de jour? Et ça, c'est un atelier qu'on va produire cet après-midi.
D'accord.
Pour lequel on développe un cadre de référence qui va soutenir cette intégration-là.
Mm.
Et j'ai hâte, en fait, on a déjà une bonne partie de fête, mais j'ai hâte de voir la réception aujourd'hui parce que après les fêtes, on va faire un lancement plus officiel de ce cadre de référence-là.
D'accord.
Mais c'est véritablement en aide, en support aux municipalités pour accueillir les parents qui, avec leurs demandes, mais aussi pour soutenir l'inclusion réelle des enfants handicapés dans les camps de jour.
Mais oui. Monsieur Saint-Onge, quel type d'atelier allez-vous proposer, d'autres ateliers dans le cadre de cette conférence annuelle à Rivière-du-Loup?
Oui, alors si on a un atelier qui porte sur les camps de jour, on a un autre atelier qui est issu d'une recherche qu'on a menée avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est sur l'accessibilité au plein air pour les personnes handicapées. Et de ça, donc, on présente les résultats de cette recherche-là, mais surtout les guides. Les guides sont disponibles sur le site gratuitement, mais des guides qui s'adressent aux décideurs, qui s'adressent aux gestionnaires. comment on fait pour développer une offre de loisirs inclusive, oui. le plein air? Et on a un autre, pas véritablement un guide, mais davantage un feuillet, qui s'adresse aux personnes elles-mêmes pour leur dire « Oui, oui, vous pouvez faire du plein air. » Parce que parfois, la limitation ne vient pas de l'absence de
la capacité. Oui.
Oui, des fois, c'est la personne elle-même qui crée ces limites-là. Mm-hmm. Alors nous, on s'adresse aux deux. Et c'est l'objet qu'on va présenter cet après-midi.
Très intéressant, très intéressant. Quand vous parlez de votre site, c'est simplement aqlph.com?
Simplement aller sur Google et faire Association québécoise loisirs personnes handicapées et vous allez trouver les références sur le site.
D'accord. Et donc ça, encore une fois, ça regroupe des municipalités autour de Rivière-du-Loup où il y a des gens de partout au Québec?
Oh non, c'est l'ensemble du Québec.
C'est l'ensemble du Québec,
parfait.
Ah oui,
c'est vraiment l'ensemble du Québec.
D'accord, d'accord.
Des gens d'Abitibi comme des gens des Îles-de-la-Madeleine en passant par Fermont.
OK.
Oui, c'est vraiment
C'est gros.
Le rassemblement annuel, oui, il y a plus de 500 congressistes strictement du domaine du loisir et du domaine municipal du loisir. C'est fabuleux.
Eh bien, écoutez, Monsieur Saint-Onge, on va vous souhaiter une bonne continuation parce qu'on rappelle que ça se prolonge, cette conférence annuelle du loisir à Rivière-du-Loup jusqu'au 7 octobre. Ça se passe où exactement, d'ailleurs, à Rivière-du-Loup?
Nous, on est à l'hôtel universel présentement.
D'accord. Donc, c'est là que tous les ateliers se donnent?
Oui.
D'accord, parfait. À l'hôtel universel, si des fois il y a des gens qui se dirigent et qui voudraient peut-être assister eux aussi ou elles aussi à des ateliers. Monsieur Marc Saint-Onge, directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
C'est un grand plaisir, Madame Sey.
Alors au plaisir à vous-même. Au
revoir. Oui, bonjour.
Actualité canadienne maintenant, manque d'accessibilité à l'Assemblée manitobaine, la demande de Fletcher rejetée. Le gouvernement manitobain a rejeté la question de privilège déposée par le député conservateur Stephen Fletcher, qui souhaite exercer pleinement son rôle de membre de l'Assemblée législative malgré son handicap. Selon le député Fletcher, le manque d'accessibilité à l'Assemblée législative du Manitoba constitue un exemple flagrant de limitation de l'accès et porte atteinte à son privilège parlementaire. Je rappelle que M. Fletcher, député provincial d'Assiniboia, on va dire ça comme ça, hein, et ça fait rire beaucoup Jean-Sébastien, et tétraplégique, ça nous fait évidemment beaucoup moins rire. L'ancien député fédéral qui se déplace en fauteuil roulant motorisé est frustré de la lenteur des travaux entamés pour permettre l'accès en fauteuil roulant à l'Assemblée. À la fin du mois de juin, il a déposé une motion pour demander que les modifications nécessaires soient terminées avant la fin de l'année. Lors de la reprise de la session législative à Winnipeg lundi, la présidente de l'Assemblée, Mme Myrna Driger, a rejeté la plainte du député Fletcher, disant que d'un point de vue strictement technique, rien n'empêchait le conservateur d'entrer dans l'édifice ou dans la chambre et donc rien ne l'empêchait de vaquer à ses tâches. M. Fletcher a contesté évidemment la décision de Mme Driger qui a ensuite dit aux députés que s'ils pouvaient obtenir l'appui de trois autres membres, elle mettrait la résolution aux voix à l'Assemblée. La motion a été mise aux voix et les deux partis de l'opposition, soit le NPD et le Parti libéral, ont voté pour Stephen Fletcher et les modifications pour rendre le palais plus accessible aux personnes handicapées. Toutefois, ses homologues conservateurs ont majoritairement voté contre la motion. Donc, elle a été défaite. Et pour sa part, le premier ministre Brian Pallister a loué la présidente de l'Assemblée pour son jugement. Il a dit vouloir l'appuyer dans son travail tout en soulignant que, effectivement, la question d'accessibilité et la question de privilège sont deux enjeux différents. Pour une stratégie de réduction de la pauvreté, c'est un autre sujet. Le ministre Duclos diffuse un document de discussion avant la tenue des consultations. Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer une stratégie canadienne de réduction de la pauvreté et il tiendra en 2017 des consultations auprès des Canadiens afin de connaître leur point de vue, ce qui l'aidera à élaborer cette stratégie. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a présenté ce document hier 4 octobre, intitulé intitulé « Pour une stratégie de réduction de la pauvreté ». Il a présenté cela aux membres du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Ce document, qui vise à amorcer un dialogue au sujet de la réduction de la pauvreté au Canada, présente le contexte et fournit des renseignements de base sur cet enjeu important. Les personnes et les organisations intéressées peuvent examiner ce document de discussion avant le début du vaste processus de consultation. Ça nous vient évidemment d'Emploi et Développement Social Canada. D'ailleurs, si vous désirez connaître la teneur de ce rapport et de ce document pour une stratégie de réduction de la pauvreté, nous vous engageons à aller sur le site du gouvernement du Canada, / Emploi et Développement Social Canada. Également à l'international, l'ONG a organisé une grande action de sensibilisation samedi à Luxembourg sur la place d'Armes pour dénoncer le bombardement des populations civiles qui se retrouvent en première ligne des conflits. Bombarder les civils, ce n'est pas la guerre, c'est un crime. Tel est le nom de la nouvelle campagne de Handicap International. Le nouveau bombardement du principal hôpital syrien d'Alep samedi dernier a fait monter au créneau Rick Brennan, directeur de la gestion des risques liés aux situations d'urgence et de l'action humanitaire à l'OMS, qui a qualifié la situation d'inextricable. Nous demandons quatre choses. Cesser de tuer et cesser d'attaquer les services de santé. Laisser sortir les malades et les blessés et laisser entrer l'aide humanitaire. La situation est vraiment inextricable. Alors, ils ont mené une action de sensibilisation samedi en plein cœur de la capitale du Grand-Duché de Luxembourg. Et dans ce cadre, une symbolique pyramide de chaussures a été montée sur la place d'Armes afin d'évoquer les mutilations découlant de l'explosion d'obus, de mortiers, roquettes, bombes aériennes, mines antipersonnelles ou bombes à sous-munitions, etc. Certaines personnalités du monde politique, dont le président de la Chambre des députés, M. Bartolomeo, ont marqué leur approbation à l'égard d'une initiative qui vise à dénoncer les violations du droit humanitaire. Aider quelqu'un à mieux voir, peut-être en gagnant des loupes électroniques Explore 5. La Journée mondiale de la vue aura lieu le 13 octobre prochain. Nous en reparlerons bien sûr. Et c'est un événement annuel de conscientisation globale sur la cécité et la déficience visuelle à laquelle on vous convie. C'est le moment idéal de démontrer pourquoi la santé oculaire est l'affaire de tous. Si vous désirez vous inscrire ou pour inscrire quelqu'un, si vous désirez le faire, il faut aller sur le site humanware.com, human, H-U-M-A-N-Ware, W-A-R-E, en un seul mot évidemment, .com. Les gagnants seront annoncés lors de la Journée mondiale de la vue le 13 octobre 2016. Donc pour vous inscrire ou pour inscrire quelqu'un qui souffre de problèmes de vue au milieu des 285 millions de personnes dans le monde qui souffrent de basse vision et de cécité. Voilà ce qui met un terme à l'émission Les Paractualités en ce 5 octobre. Merci à mon équipe Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne journée et qui vous donne rendez-vous demain matin à 11h30.